Les puissances de ce monde et leur présente activité sont senties comme n'appartenant pas du tout à Dieu. Ou bien pour quelque autre chose.
Certes, n'est-ce pas, il met, c'est une certaine attitude qui donne ça. Il le dit avant, n'est-ce pas? Il y a une attitude, il explique. Il y a une attitude dans laquelle on, tout ce, toutes les choses matérielles apparaissent comme non seulement n'étant pas l'expression du divin, mais incapable de le devenir, et essentiellement contraire à la vie spirituelle. Et alors il n'y a qu'une solution, c'était celle des anciennes yogas, n'est-ce pas ? Le rejet total de la vie, comme ne pouvant pas du tout participer à la vie spirituelle. Le rejet de la vie matérielle. C'est ça qu'il explique. Il dit que c'est dans cette attitude-là, c'est comme ça qu'on regarde la vie. Il ne dit pas qu'elle est comme ça. Il dit qu'on la regarde, la considère. Que c'est l'attitude de ceux qui ont séparé complètement la vie de la vie. De l'esprit, et qui disent que la vie, n'est-ce pas, est une illusion, une falsification, et qu'elle est incapable d'exprimer le divin.
Nous pouvons enrichir notre réalisation avec le butin arraché aux puissances qui nous combattent.
Oui.
Quels sont ces butins?
Toutes les forces adverses qui sont à l'œuvre dans le monde. Le monde tel qu'il est maintenant est dans sa majeure partie sous l'influence des forces adverses. On les appelle adverses parce qu'elles ne veulent pas de la vie divine. Elles s'opposent à la vie divine, elles veulent que les choses restent comme elles sont, parce que c'est leur domaine et leur puissance dans le monde. Ils savent très bien qu'ils perdront tout pouvoir et toute influence de la minute où le divin sera manifesté. Alors, ils luttent ouvertement et complètement contre le divin. Et il faut leur arracher morceau par morceau, petit à petit, toutes les choses qu'ils ont conquises dans la vie extérieure. Alors, quand on leur arrache, c'est autant gagné. Tandis que si, comme on faisait avant, on faisait ce que l'on appelle la part du feu, c'est-à-dire qu'on laissait partir toutes les choses qu'ils ont considérées comme ne pouvant pas être transformées, c'est autant perdu pour la réalisation du monde. Toutes les réalisations de la nature dans la vie extérieure, tout ce qu'elle a créé, par exemple sur la terre, tout ce monde végétal, animal, humain, ordinaire, qu'elle a créé. Si on abandonne tout ça comme une illusion qui est incapable d'exprimer le divin, alors c'est autant que l'on laisse entre les mains des forces adverses qui essayent de le garder justement pour leur fin propre. Tandis que si on considère que tout cela peut être déformé maintenant, mais que dans son essence et dans son origine, non seulement cela appartient au divin, mais que c'est le divin lui-même, alors on peut travailler consciemment, volontairement, à la transformation et arracher toutes ces choses à l'influence hostile qui les gouverne.
Notre être universel.
Quel il est? Je ne comprends pas bien ta question.
Car notre nature entière et son entourage, le tout de notre être personnel et de notre être universel aussi, sont pleins d'habitudes et d'anciens.
Oui, c'est-à-dire la partie, notre être universel, c'est notre relation avec tous les autres et tous les mouvements de la nature. Et je vous ai dit souvent, n'est-ce pas, que l'état premier de votre être est un état de mélange presque total avec toutes ces choses du dehors, et que il n'y a presque pas d'individualisation, c'est-à-dire de spécialisation qui fait de vous un être différent. Vous êtes mu, une sorte de forme qui est votre corps physique et qui est mu par toutes les forces universelles, générales, des forces vitales ou des forces mentales qui vous traversent votre forme et la mettent en mouvement. Alors ça, c'est l'être universel. Et tout ce que vous avez arraché à cette semi-conscience générale et que vous avez cristallisé en un être plus ou moins indépendant, conscient de lui-même et ayant ses qualités propres, tout ça c'est votre être individuel. Et cet être individuel est plein de tous les mouvements d'obscurité, d'inconscience et de limitation de la vie ordinaire. Et c'est cela qu'il faut petit à petit ouvrir à l'influence divine et amener à la conscience et à la compréhension des choses. En fait, la première victoire est de créer une individualité. Et puis après, la seconde victoire, c'est de donner cette individualité au divin. Et la troisième victoire, c'est que le divin change votre individualité en un être divin. Il y a trois étapes. La première, c'est de devenir un individu. La seconde, c'est de consacrer l'individu et qu'il se soumette entièrement au divin pour s'identifier à lui. Et la troisième, c'est que le divin s'empare de cet individu et le change en un être à sa propre image. C'est-à-dire qu'il devienne divin. Généralement, toutes les yogas s'arrêtaient à la seconde. Quand on était arrivé à soumettre l'individu et à le donner sans réserve au divin pour s'identifier à lui, on a considéré que son travail était fini, que tout était accompli. Mais nous commençons là et nous disons non, c'est seulement un commencement. Nous voulons que ce divin auquel nous nous sommes identifiés entre dans notre individualité et en face une personnalité divine agissant dans un monde divin. Et ça, c'est ce que nous appelons la transformation. Mais l'autre, le précédent, doit précéder. S'il n'est pas fait, il n'y a pas de possibilité de faire la troisième. On ne peut pas passer de la première à la troisième, il faut passer à travers la seconde.
Mais la troisième dépend entièrement de divin, s'il ne sent pas le mouvement.
En fait, tout dépend entièrement du divin, c'est seulement la conscience que vous en avez qui est différente. Alors dans la troisième étape, évidemment, on devient conscient que c'est le divin qui fait tout, alors ça dépend entièrement du divin. Quand tu dis ça, il y a la partie de ta conscience qui est encore convaincue de sa séparation et de son existence propre, qui regarde l'autre et qui dit « Ah bon, maintenant je n'aurai plus rien à faire. » Mais s'il n'existe plus, s'il devient conscient qu'il est le divin, alors il ne peut pas avoir cette impression. Il fait continuer à faire le travail, mais avec la conscience véritable, au lieu d'avoir la conscience déformée. Tu ne demandes jamais rien. C'est tout. Pourquoi pas? Mais je demande pourquoi on ne le sentirait pas? Au lieu de poser la question comment le sentir, moi je pose la question comment fait-on pour ne pas le sentir? Il n'y a pas de raison pour ne pas sentir la présence divine. Une fois que tu l'as senti une fois, tu devrais être capable de le sentir toujours puisqu'elle est là. C'est un fait. C'est seulement notre ignorance qui fait que nous en sommes inconscients. Mais si nous devenons conscients, alors pourquoi est-ce que nous ne serions pas toujours conscients? Pourquoi oublier une chose qu'on a apprise? Quand on a eu l'expérience, pourquoi l'oublier? C'est simplement une mauvaise habitude, c'est tout. N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est un fait. C'est-à-dire que cela est. Mais nous en sommes ignorants et nous ne le savons pas. Mais de la minute où nous devenons conscients et où nous le savons, pourquoi est-ce que nous l'oublierions encore? Quel sens ça a? C'est tout simplement parce que nous ne sommes pas convaincus qu'une fois qu'on a rencontré le divin, on ne peut plus l'oublier. Nous sommes au contraire pleins d'idées stupides qui consistent à dire « Oh oui, c'est très bien une fois comme ça, mais le reste du temps, ça sera comme d'habitude. » Alors il n'y a pas de raison pour que ça ne recommence pas. Mais si nous savons que nous ne connaissions pas quelque chose, nous étions ignorants, mais de la minute où nous avons la connaissance, moi je demande sincèrement comment est-ce qu'on fait pour l'oublier? On pouvait ne pas savoir quelque chose. Ça, c'est un fait. Il y a une quantité innombrable de choses qu'on ne sait pas. Mais de la minute qu'on les sait, de l'instant qu'on a l'expérience, comment s'arrange-t-on pour l'oublier? Vous avez au-dedans de vous, vous avez la présence divine. Vous n'en savez rien. Pour toutes sortes de raisons. Enfin, la raison principale, c'est que vous êtes dans un état d'ignorance. Mais tout d'un coup, par un concours de circonstances, vous devenez conscient de cette présence divine. C'est-à-dire que vous êtes en présence d'un fait. Ce n'est pas une imagination, c'est un fait, c'est une chose qui est. Alors comment vous arrangez-vous pour l'oublier, une fois que vous l'avez su? Ah, et pourquoi? Parce que vous êtes persuadé que c'est un état normal et qu'on ne peut pas faire autrement. Mais de la minute où vous savez que c'est un état absolument anormal, contraire à la vérité, comment se fait-il que ça peut se reproduire? C'est simplement parce que vous n'êtes pas convaincu. C'est parce que quand vous avez l'expérience de la présence divine, ça vous paraît une chose fabuleuse, miraculeuse, extraordinaire et presque anormale. Et alors que cet état sublime, comment est-ce que je peux le garder? C'est tout à fait contraire à mon existence propre. Mais c'est ça qui est une imbécilité. Parce que c'est cet état sublime qui est l'état naturel. Et c'est ce que vous êtes constamment qui n'est pas naturel. Qui est une falsification, une déformation, n'est-ce pas, un état qui n'est pas normal. Tandis que d'avoir la connaissance et de vivre dans la vérité, c'est ça qui est l'état normal. Alors comment se fait-il qu'une fois que vous l'avez eu, c'est fini, l'état anormal disparaît, vous devenez normal. Et vous vivez dans la vérité, une fois qu'on est dans la vérité, comment est-ce qu'on s'arrange pour en sortir encore? C'est tout simplement, n'est-ce pas, que vous n'êtes pas entré totalement dans la vérité, et qu'il n'y a qu'une partie de vous-même qui a eu l'expérience et que les autres ne l'ont pas encore, et qu'alors vous ne restez pas dans cette partie de vous-même qui a eu l'expérience et vous commencez à vivre dans d'autres parties qui ne l'ont pas encore. Et qu'il faut que toutes ces parties aient cette expérience l'une après l'autre. C'est ça la réponse à ma question. C'est ça qu'il aurait fallu me dire, mais c'est parce que nous ne sommes pas faits d'un seul morceau et que le morceau qui a fait l'expérience n'est pas unique en nous et n'est pas toujours là, qu'il est remplacé par toutes sortes d'autres morceaux qui n'ont pas encore fait l'expérience et qui doivent la faire. C'est pour ça. Mais à dire vrai, ce n'est pas inévitable. Parce que même si la partie qui a fait l'expérience et qui sait n'est plus tout à fait en avant et maîtresse de la conscience, si elle est remplacée par une autre partie qui est encore dans l'ignorance, ce n'est pas une raison pour oublier l'autre, puisque cette autre partie est vous aussi, et elle reste vous, et elle est là. Pourquoi l'oublier? Pourquoi, quand la partie obscure et inconsciente et ignorante arrive, pourquoi ne pas la mettre immédiatement en présence de l'autre? Comme ça. Pour que l'autre puisse lui montrer qu'elle est dans l'ignorance. Ça, tout le monde peut le faire. C'est seulement une question de le vouloir. Nous ne sommes pas obligés de retomber dans l'erreur. Nous ne sommes pas obligés de retomber dans l'obscurité, l'ignorance et la stupidité. C'est parce que quelque chose en nous, par veulerie ou par défaitisme, accepte ça. Si on ne l'acceptait pas, ça ne se produirait pas. Même quand tout semble s'obscurcir tout d'un coup, la flamme et la lumière sont toujours là. Et si on ne les oublie pas, on n'a qu'à mettre en face d'elle la partie qui est obscure. Il y aura peut-être une bataille, il y aura peut-être une petite difficulté. Ce sera une chose tout à fait passagère. Et jamais on ne perdra pied. C'est pour ça qu'on dit, et c'est une chose vraie, que de pécher par ignorance, ça peut avoir des conséquences funestes. Parce que quand on se fait des fautes, eh bien, ces fautes ont des conséquences, c'est évident. Et généralement des conséquences extérieures et matérielles. Mais ce n'est que demi-mal. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Mais quand on sait ce qui est vrai, quand on a vu et qu'on a eu l'expérience de la vérité, et accepter le péché de nouveau, c'est-à-dire de retomber dans l'ignorance et l'obscurité, ça, c'est une faute infiniment plus grave. Ça commence à appartenir au domaine de la mauvaise volonté. C'est en tout cas un signe de veulerie et de faiblesse. C'est que la volonté est faible. Alors ta question est posée à l'envers. Au lieu de te demander comment garder, il faut te demander comment ne garde-t-on pas. Ne pas l'avoir, c'est un état qui est l'état de tout le monde avant la minute où on sait. Ne pas savoir, on est dans cet état-là avant de savoir. Mais une fois qu'on sait, on ne peut pas oublier. Et si on oublie, c'est qu'il y a quelque chose qui consent à oublier. C'est qu'il y a un consentement quelque part. Autrement, on n'oublierait pas. C'est tout. c'est tout. Plus rien. Plus de questions nulle part. Vous voulez méditer? Hein? Oui.